Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Piranes de Susanna Clarke est un roman de fantasy littéraire publié en 2020 qui se distingue par sa brièveté, sa construction singulière et son univers d'une grande cohérence symbolique. Le récit prend la forme du journal tenu par un narrateur qui vit dans la maison, un espace immense composé de salles, de statues et de marais où il consigne méthodiquement ses observations. Ce dispositif donne au livre une texture à la fois intime, analytique et énigmatique. L'intrigue progresse par fragments, à partir de notes, d'indices et de découvertes successives, ce qui fait de la lecture une expérience de reconstitution. Le roman s'intéresse à la mémoire, à l'identité, à la solitude et à la manière dont un lieu peut modeler la pensée. Il dialogue aussi avec l'art, l'allégorie et les labyrinthes de la représentation, tout en restant accessible par la force de son imaginaire et la précision de sa langue. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une narration en journal qui transforme le lecteur en enquêteur. Le choix du journal intime est central dans Piranes, car il ne sert pas seulement à raconter, mais à produire le sens par accumulation de traces. Le narrateur note ses journées, ses déplacements, ses observations sur les statues, les marais et les salles, ce qui donne au texte une apparence de classement scientifique. Pourtant, cette rigueur est trompeuse, car les informations restent fragmentaires et parfois mal comprises par celui qui les écrit. Le lecteur dispose alors d'un avantage décisif, il voit souvent ce que le narrateur ne peut pas encore relier, ce qui crée un effet d'enquête. Cette structure modifie profondément la lecture du roman, puisqu'elle oblige à interpréter les répétitions, les lacunes et les détails apparemment insignifiants. Clarke construit ainsi un récit où la vérité n'est jamais livrée d'un seul bloc, mais reconstituée progressivement à partir de notations concrètes. Ce dispositif donne au livre une tension discrète mais constante, fondée moins sur l'action que sur la découverte patiente d'un cadre mental et narratif instable. Deuxièmement, la maison comme labyrinthe physique, mental et symbolique, la maison n'est pas un simple décor fantastique, elle fonctionne comme la traduction spatiale d'un état de conscience. Ces milliers de salles, ces niveaux distincts, ces marais et ces zones inaccessibles composent un monde à la fois majestueux et oppressant. Ce caractère labyrinthique ne renvoie pas seulement à une difficulté d'orientation. Il organise aussi la perception du réel. Plus Piranes explore, plus l'espace révèle ses hiérarchies, ses vides et ses seuils. Comme si la géographie elle-même imposait une forme de pensée, le roman fait de la maison un lieu total, presque autosuffisant, où l'architecture devient une expérience mentale. Cette idée est renforcée par la présence constante des statues, qui fichent des gestes, des corps et des scènes en une mémoire minérale du monde. Le labyrinthe prend alors une dimension symbolique, il évoque l'égarement, mais aussi l'initiation, puisque comprendre la maison revient à comprendre les limites de sa propre perception. Clarke transforme ainsi l'espace en instrument philosophique et non en simple merveille visuelle. Troisièmement, solitude, mémoire fragmentée et identité fragile du narrateur. L'un des grands enjeux du roman est la relation entre solitude et construction de soi. Piranes vit presque seul dans la maison, entouré de statues, d'oiseaux, de marais et de quelques présences humaines limitées. Cette situation pourrait sembler stable, mais elle repose en réalité sur une mémoire incomplète et vulnérable. Le narrateur ne dispose pas d'un passé immédiatement accessible. Il doit l'approcher par indices, reprises et contradictions. Le roman montre ainsi que l'identité n'est pas une donnée fixe, mais une recomposition permanente à partir de ce qui reste lisible. La manière dont Piranes se nomme lui-même, interprète ses habitudes et organise ses journées, révèle une personnalité façonnée par l'isolement, mais aussi par une forme de douceur attentive. Clarke évite de réduire cette fragilité à une simple énigme psychologique, elle en fait une expérience humaine universelle. Le livre interroge la manière dont on survit quand la continuité de la mémoire est rompue et comment des gestes réguliers, observés, classés, remerciés, peuvent servir de soutien à l'existence. Quatrièmement, une allégorie de la connaissance entre quête spirituelle et doute critique. Le roman met en scène une recherche de savoir qui dépasse la simple curiosité intellectuelle. La maison est traversée par l'idée d'un grand savoir, que certains personnages poursuivent comme une forme de vérité suprême. Cette quête donne au livre une dimension allégorique, elle renvoie à l'ambition humaine de comprendre le monde, mais aussi au risque de cette ambition lorsqu'elle devient pouvoir, dépendance ou illusion. Le texte suggère que savoir ne signifie pas seulement accumuler des informations. Il faut aussi discerner ce qui est fiable, ce qui est incomplet et ce qui est manipulé. Piranes incarne une forme de connaissance empirique, fondée sur l'observation minutieuse, mais cette méthode rencontre vite ses limites dès qu'elle est confrontée à des récits partiels et à des rapports de force. Le roman devient alors une réflexion sur la prudence intellectuelle, voire ne suffit pas, nommer ne suffit pas, classer ne suffit pas. Il faut accepter le doute, réévaluer ses certitudes et reconnaître que toute construction de sens peut être orientée par des intérêts extérieurs. En dernier lieu, Un dialogue discret avec Piranèse, l'art, les ruines et l'allégorie platonicienne, le titre du roman renvoie à Giovanni Battista Piranesi. Célèbre pour ses gravures de prisons imaginaires et de ruines monumentales, cette référence n'est pas décorative, elle éclaire l'esthétique du livre, fondée sur la monumentalité, l'enfermement et la puissance des images architecturales. La maison ressemble à une œuvre gravée devenue espace habitable, avec ses proportions démesurées, ses salles répétées et sa beauté inquiétante. Le roman entre aussi en résonance avec une réflexion de type platonicienne sur l'écart entre apparence et vérité. Les statues, les reflets, les traces et les signes renvoient à un monde de médiation plutôt qu'à une réalité immédiatement transparente. Clarke n'illustre pas directement une thèse philosophique, mais elle la met en expérience. Le lecteur est amené à comprendre que l'univers représenté est à la fois réel dans sa matérialité et trompeur dans sa signification immédiate. Ce dialogue entre art, architecture et pensée donne au roman une profondeur rare. Il peut se lire comme une fable, comme un récit d'exploration, ou comme une méditation sur le rapport entre représentation et monde. En conclusion, Piranèse conviendra particulièrement aux lecteurs de fantasy littéraire, de récits allégoriques et de romans à énigmes où l'atmosphère compte autant que l'intrigue. Il intéressera aussi ceux qui apprécient les textes brefs mais denses, capables de faire travailler la mémoire, l'interprétation et le sens du détail. Sur le plan intellectuel, le livre offre une réflexion solide sur la perception, l'identité, l'isolement et les limites du savoir, sans jamais tomber dans l'essai explicatif. Sur le plan narratif, il se distingue par son architecture en journal, qui transforme chaque note en indice potentiel et chaque répétition en élément de reconstruction. Ce qui le différencie de nombreuses fictions de genre, c'est sa capacité à mêler une imagerie très forte à une construction très contrôlée, où le mystère n'est pas un simple effet, mais le principe même de l'œuvre. Là où d'autres romans de labyrinthe misent sur la complexité pour elle-même, Piranèse articule beauté formelle, portée philosophique et émotion discrète. C'est un livre qui laisse une empreinte durable, parce qu'il ne se contente pas de raconter un monde étrange, il fait éprouver la manière dont ce monde altère la conscience qui l'habite. Si vous souhaitez soutenir Susan Ann Clarke, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!